Être sourd n'est pas le contraire d'entendre. C'est un silence rempli de bruit. C'est le cri du printemps brisant le sommeil de l'hiver.
Est-ce que tu peux parler? Est-ce que toi...
On peut parler,
oui. Comme ça, lui, il entend et il règle le micro.
Si vous allez m'enregistrer maintenant. Ah bon? Et on n'a rien préparé, je vais dire quoi?
Richard est sourd, appareillé et oralisant. Il signe aussi.
Les sourds ne sont pas silencieux. Ils crient, ils rient, ils pleurent comme tout le monde. Mais quand ils se mettent à signer, c'est du visuel, mais c'est pas silencieux parce que les sourds sont très bavards.
Avec Paz, une amie, on a tout de suite pensé à lui quand je lui ai parlé de mon podcast sur le silence.
Le silence dans ta vie, comment tu le perçois?
Alors, on l'a invité.
Si tu devais mettre des
mots. Moi, ce que j'entends, c'est toujours un bruit lointain. Un écho qui est vraiment bruté par le silence. C'est un bruit léger de fond dans le silence, c'est ça, moi, ce que j'entends.
Et si tu enlèves tes prothèses, est-ce que tu es dans le silence total?
Non. Non, j'entends toujours quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas.
Silence Radio, un podcast de Wilfried Kroos, épisode 1. Suite au montage de l'épisode 0 de ce podcast, j'ai noté plein de questions que me posait le silence, des choses en vrac qui allaient de l'énumération d'expressions où le silence est cité, invoqué,
le silence est d'or,
à des métaphores plus ou moins douteuses sur le vide et toute expression qui se rapportait de près ou de loin au champ lexical du silence.
La minute de silence.
Je tordais le sens du mot silence, je l'essorais pour en extraire des pistes de recherche.
Si silence siffle sur nos têtes.
Des pelotes à dérouler pour construire une sorte de cartographie, une géographie.
Silence, moteur, ça tourne. Action.
J'en parlais aussi autour de moi, et ça a inspiré un texte à mon ami Paz.
Silence. Comment en parler sans le faire fuir? Accordons-lui quelques instants. Vous entendez ce rien? C'est lui. Il est toujours là à nos côtés, mais si discret, si fragile, qu'un rien suffit à l'écarter. Le silence est une absence. Un vide de bruit. Certains y voient un ennemi. Lui coupe les ailes. Un ami m'a dit pourtant porter un casque pour y flotter dans le silence et oublier les bruits de la cité. Le silence est rare et précieux. Il magnifie les dernières notes d'une symphonie. Permet les images entre deux lignes de lecture. Il nourrit l'ermite aussi. Le silence. Espace en danger. Société de vitesse, de performance, de consommation frénétique. Qu'as-tu fait du néant acoustique ? Militons pour le droit au silence. Abat les tours de circuit par trop intense. Les haut-parleurs poussés à fond et les voitures qui tournent en rond. Loin de toute ville, dans une montagne dite noire, sur la colline retirée, il faut attendre la nuit tombée pour quelques plages de silence, avec la complicité du ciel étoilé. La journée, oiseaux et insectes occupent l'espace sonore. Leurs chants sont pourtant doux à nos oreilles. Il faut bien que les oiseaux discutent aussi. Avant de parler, je dois toujours me rappeler que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Parfois, on le dit de plomb. Un silence lourd. Non, non, silence, ce n'est pas toi qui pèses, juste la peine ou l'embarras. On dit aussi que tu laisses passer un ange. Je l'imagine dodu et nu, voltant de ses petites ailes au-dessus de l'assemblée. Un sourire vient. Quittons-nous en le laissant venir à nous, juste un peu, car sur les ondes, on le redoute.
Richard, est-ce que tu veux réagir au texte de Paz ?
Moi, je dis plutôt que le silence, c'est un moment pour se retrouver. C'est un moment personnel qu'on peut se retrouver. Moi qui suis sourd et qui suis constamment dans le silence, en fait, c'est pas un véritable silence, parce que j'entends toujours des bruits de fond, des bruissements, des bruits sourds que je n'identifie pas toujours. Et quand je me retrouve vraiment dans un endroit silencieux, c'est me retrouver avec moi-même. Mes pensées, au bout d'un moment, deviennent plus claires. Je peux trouver les décisions. Alors que dans le bruit, l'interaction, les voitures, les gens, les passants, on n'arrive plus à réfléchir, on étouffe. Moi, je préfère. Chez moi, je peux le retrouver. Je n'allume pas la télé, je m'isole. Je fais une tâche domestique, je ne sais rien, la cuisine. Et en me concentrant sur la cuisine, j'arrive à pouvoir éclaircir mes idées et trouver la solution à un problème qui s'est rencontré dans la journée.
Les sourds et sourdes vivent-ils et elles dans un monde de silence ? Carole Padden et son mari Tom Humphries sont américains, linguistes et sourds. Nés sourds de famille sourde, ils ont notamment déclaré que les sourds construisent leur monde à partir de ressources en mouvement, forme et son. La métaphore du silence a un pouvoir explicatif pour les entendants voulant désigner de la sorte ce qui leur paraît être le fait central de l'univers sourd. C'est cependant tout à fait grossier et inadéquat pour rendre compte des connaissances et des actes des sourds. En continuant la citation dans leur langue cette fois, si j'ose dire, Carole et Tom ajoutent
« The lives of deaf people » are far from silent, but very loudly click, buzzy, swish, pop, roar, and whir.
Le sociologue Bernard Mottez, connu pour la création du nom « langue des signes française » pour remplacer langage gestuel pendant ce que les sourds appellent le « réveil sourd » dans les années 80 en France, déclaré concernant l'évocation répétitive du silence à propos des sourds, nous préférons le terme de visuel à celui de silencieux. Pour désigner les sourds, nous préférons celui de monde visuel à celui de monde de silence pour désigner le monde des sourds ou leur façon d'être au monde. Ceci parce que le sens du mot silence prête à malentendu tant sont différentes les expressions qu'on peut en avoir selon qu'on est sourd, malentendant, devenu sourd ou entendant. Pensez d'autre part que le sourd de naissance vit dans le silence à la façon dont nous l'entendons, si l'on peut dire, est aussi absurde que l'idée que se font beaucoup de voyants que l'aveugle de naissance vit dans le noir. Par ta condition de sourd, est-ce que c'est aussi une angoisse, le silence ?
Ça peut l'être. Ça peut l'être surtout le matin. Quand je me lève, comme je ne perçois pas de suite les sons qui environnent chez moi, je peux mettre la télé, ouais, justement pour voir... Oui, tu entends encore. Après, j'éteins ou je mets le son en sourdine, il n'y a plus de son. Je vois juste les images et je fais ma journée commence. Mais c'est vrai que c'est comme si le matin, tu ouvrais les yeux et que tu ne voyais pas de lumière. Comme si le soleil n'apparaissait pas. Et c'est vrai que quand tu tournes la tête, tu vois le rayon de soleil qui passe le volet. Tu te dis, ah, il est là, donc je vois. Maintenant, est-ce que j'entends encore? C'est toujours la question que je me pose.
Et alors, tu as parlé de bruit sourd. Est-ce qu'il y a des variations dans ces bruits, dans ces bruits que tu entends malgré tout?
Oui, j'entends parfois des sons, mais les sons ne sont pas complets. C'est-à-dire que, par exemple, le bruit d'un réfrigérateur, je peux... entendre juste le démarrage et je n'entends pas le réfrigérateur tourner pourtant. Par exemple, mon fils, j'ai gardé mes enfants à la maison, mon fils, quand il pleurait, j'entendais le début de ses pleurs. Dès que le pleur montait au niveau sonore, je ne l'entendais plus et j'entendais la fin. Donc en fait, mon fils, ça faisait « Ah !» Ça me permettait de savoir s'il pleurait ou s'il dormait. Après, bien sûr, j'avais tout avec des iodes, un babyphone, et c'était visuel, oui. C'est vraiment difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Le son n'est jamais véritablement complet. Quand les gens me parlent, je perçois leur voix, mais ce qu'ils disent, c'est plein de trous. Les sons ne sont pas bien identifiés. Des fois, il y a des trous silencieux dans le texte ou dans la phrase qu'ils définissent. Et je bouche les trous avec les vocabulaires que je connais pour refaire une phrase claire. Le silence, pour moi, c'est tous les jours. Même s'il n'est pas complètement silencieux, c'est tous les jours.
Comme des arriérés mentaux. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'abbé de l'Épée met au point un langage gestuel en observant deux jumelles qui communiquaient par signes. Avec l'aide de ses élèves, il invente un alphabet et une véritable langue des signes. Son enseignement rencontre un vif succès à travers toute l'Europe et se diffuse jusqu'aux États-Unis.
Qu'a-t-il répondu ?
Monsieur, cela est impossible à traduire dans notre langue. C'est un geste d'esprit.
Mais très vite, d'autres méthodes cherchent à faire parler les sourds à force d'exercices parfois très douloureux. Et en 1880, la langue des signes, alors qualifiée de langue de singe, est interdite. Les sourds sont donc obligés d'apprendre à parler et à lire sur les lèvres. Il faut attendre 1991 pour qu'une loi autorise enfin l'enseignement de la langue des signes. Aujourd'hui, les enfants sourds peuvent intégrer une école bilingue où ils apprennent en même temps la langue des signes et le français. Ils peuvent également suivre une scolarité classique avec des enfants entendants.
Donne-moi un bonbon.
Et pour comprendre la maîtresse, ils lisent sur ses lèvres.
Non, dit Coralie.
Et dis donc, il paraît qu'il y a différents niveaux de surdité. Ça correspond à quoi exactement?
Eh bien, quand Marcel donne un coup de klaxon, par exemple. Une personne atteinte de surdité légère va entendre ce coup de klaxon, mais avec une perte de 20 à 30 décibels. Une personne atteinte de surdité moyenne l'entendra aussi, mais cette fois avec une perte de 30 à 60 décibels. Avec une surdité sévère, la perte est de 60 à 90 décibels. Là, on n'entend plus grand-chose. Et puis, au-delà de 90 décibels, eh bien, c'est la surdité profonde.
toi, ta propre voix, comment tu la perçois ?
Pas complète. Je perçois ma voix de l'intérieur. En fait, je sais les mots que je veux dire, puisque c'est moi qui les projette. Je l'entends de l'intérieur, c'est plutôt une vibration. C'est pas véritablement vers l'extérieur, il n'y a pas trop de retour de l'extérieur. Si je débranche mes prothèses auditives, je ne perçois pas ma voix. Si je mets mes prothèses auditives, j'arrive à la percevoir d'un côté. Et ça me permet de pouvoir moduler, savoir si je parle fort ou pas trop fort. Parce que souvent, je me mets à parler fort et les gens se retournent en me regardant.
Ouais, et pourtant, donc, tu dis que tu entends ta voix de l'intérieur.
Oui.
Et finalement, ça doit être ce qu'il y a de plus juste, puisque moi, j'ai eu l'occasion, et Will aussi d'ailleurs, je crois, de t'entendre chanter. Et c'était un moment d'une émotion très forte, quoi.
Oui. Moi, je dis, le silence n'est pas silencieux que ça. Parce que quand on est dans le silence, c'est notre corps qui parle. Moi, j'entends ma respiration de l'intérieur, j'entends ma digestion, je peux même entendre le sang qui coule dans mes veines. J'entends mon cœur et j'entends le sang qui coule dans les veines. Ça fait un bruit qui fait... C'est pas très fort, mais j'arrive à le percevoir. Des fois, ça me surprend moi-même. Je dis, je peux pas entendre mon bruit de l'extérieur quand je suis à l'intérieur de la maison, et je peux entendre ça à l'intérieur de moi-même. C'est plutôt surprenant, mais c'est comme ça.
Du coup, tu as développé plusieurs langages. Tu as le langage parlé, la langue des signes, et justement, est-ce qu'elle fait des sons, la langue des signes ?
Bien sûr. Elle fait des bruits. Il y a beaucoup de sons qui font pff, brrr. Ce sont des sons qui accentuent la gestuelle. Ce sont plutôt des vibrations. Souvent, des fois, j'entends des sons qui ne sont pas des sons avec mes oreilles, mais aperçus avec mon corps. Par exemple, si la machine à laver chez moi tourne, je ne l'entends pas, mais je sens le sol vibrer, je le sens dans mes jambes. C'est comme ça, il y a beaucoup de choses. C'est plus des sensations, pas auditives, mais tactiles. Le son peut être tactile. Surtout les basses vibrations, c'est celles que je perçois le plus.
Les masques n'ont pas aidé les communications que tu peux avoir avec d'autres, mais est-ce que le toucher aussi, ça, c'est aussi une chose, sentir des vibrations, est-ce que c'est des choses qui sont plus compliquées vu qu'on n'est pas censé se toucher, se rapprocher, etc.
Moi, ça me manque. Les étreintes, serrer la main des gens, je trouve que c'est ce contact physique qui fait qu'on est vivant. Et j'ai l'impression que là, avec le Covid, on est complètement aseptisé, on ne se touche plus, on ne fait que se regarder. Et du coup, le masque, ça aseptise tout, ça aseptise la vie, ça aseptise tout. Le fait de pas se toucher, moi, ça me manque. Les sourds sont véritablement tactiles, c'est sûr. Ils se tapent sur l'épaule pour se prévenir quand ils veulent se signer, quand ils veulent parler ensemble. Et... Puisqu'on n'entend pas de loin, il faut bien trouver un moyen d'interpeller l'autre. C'est par la gestuelle de la main ou alors par une tape sur l'épaule. Et on entend avec le corps, bien sûr.
Comment tu signes le silence ? C'est quoi le signe ? Alors, si on peut
on
décrire...
L'index sur la bouche, comme si on faisait « chut ». Et après, on fait deux becs de canard et on les aplanit devant soi. Silence. Et c'est plat, soi-disant le silence.
Dans un article de la revue Protée datant de 2000, Michel Poisat, psychanalyste, auteur notamment de La Voix Sourde, nous disait
« En fait, le sens est l'usage commun du mot silence.
En rattachant le mot à l'absence de son ou de bruit,
font trop oublier le sens premier et profond du mot tel que l'étymologie le rappelle.
Le silence fondamentalement renvoie à un taire ou à un se taire. Sens premier du verbe latin silere, racine du mot.
Le silence, en tant qu'absence de bruit ou de son, n'est que la prise en compte des effets secondaires.
Cette racine fondamentale, la langue des signes française, LSF, la retrouve d'ailleurs.
Puisque le signe, pour silence, est tiré du geste familier que l'on fait pour demander à quelqu'un de se taire.
L'index posé verticalement en travers des lèvres fermées.
C'est donc, en tant qu'il est considéré comme
hors parole
que le ou la sourde se trouve caractérisé par le silence.
Et pourtant, le sourd parle. Non pas seulement quand, sous l'apprentissage, pour ne pas dire le dressage oraliste, il s'exprime oralement selon une voix acoustique proche de celle de l'entendant.
Il parle aussi lorsque, s'exprimant en langue des signes, il énonce, en silence, les signifiants gestuels de sa langue.
Il pourra du coup signifier le silence d'un signifiant gestuel.
Il pourra même observer une minute de silence à sa manière, buste fixe, main immobile, doigts écartés, immobilisant de la sorte tous les points de l'articulation signifiante gestuelle.
Dans le support corporel de son énonciation gestuelle, le sourd nous présente ainsi la voix qui lui est propre et nous invite à redéfinir ce qu'il en est fondamentalement de la voix. Non plus l'ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales, mais la part de corps qu'il faut mettre en jeu pour produire un énoncé signifiant, quelle qu'en soit la modalité sensorielle.
Autrement dit, sourd, malentendant ou entendant, nous avons le choix de nos langues pour briser les silences entre communautés, même s'il faut sans doute déjà vouloir s'entendre.
Merci à Auguste.
Merci à Marion.
Merci à Paz.
Merci à Bérangère.
Merci bien sûr à Richard.
Pour la musique, merci à Simon & Garfunkel.
Merci à Brian Eno.
Merci à Square Pusher.
Merci à l'émission C'est pas sorcier de France 3.
Merci à lasonothèque.org.
Merci à Michel Poisat, dont on peut retrouver l'article sur www.erudit.org.
Bien sûr, et ça va devenir une habitude, j'ai un peu triché avec les sons ici et là, mais vous ne direz rien, pas vrai ?
Chut.